Un Noël d'espérance, c'est le titre que l'on pourrait donner à cette veillée enregistrée à la chapelle Sainte-Catherine d'Héroritz pendant le temps de l'Avent, le 11 décembre 2024. Cette veillée était organisée par un groupe de chrétiens de la paroisse Saint-Sauveur d'Hérobie avec la participation du conteur Chan Hérotabéer. Voici de larges extraits de cette veillée, un Noël d'espérance.
Heureux de proposer ce temps de méditation dans cette chapelle, hein, autour de Noël, dans cette période d'Avent. Alors j'ai entendu dernièrement que Avant, c'était la même racine que aventure. Donc il fallait se préparer à une belle aventure. Et si c'était l'aventure de l'espérance, de miser sur l'espérance. J'ai lu aussi un petit mot du pape François. Je dis que l'espérance est un don de Dieu et une tâche pour les chrétiens. Et vivre l'espérance signe une mystique des yeux ouverts. Comme l'appelait le grand théologien Joseph Baptiste Metz, en fait, l'avant et l'espérance, ce serait de savoir discerner partout les preuves de l'espérance. L'irruption du possible dans l'impossible. La grâce là où il semblait que le péché ait érodé toute confiance. Voilà, alors si ce soir on se mettait un petit peu en route pour ouvrir notre cœur et nos mains à cette espérance qui vient et qui avance.
Notre petite histoire, comment entrer en matière, si ça ne vous dérange pas. Voilà. Dans mon histoire, je vais aller à Baïgouri. À Baïgouri. Notre grand-père, quand il grillait les châtaignes, il nous racontait quelques histoires. Et en particulier cette histoire. Vous avez peut-être vu le film Biscar Choro, qui se passe dans un quartier de Bayouri qui s'appelle Urdos, Urdousset. Et là, Urdousset avait un privilège dans le temps, disait mon grand-père, il y a très longtemps. C'est qu'il sifflait, et puis le bois de chauffage, il venait tout seul de la forêt d'Armataré chez eux. Et dans ce village, il y avait aussi un certain Moncho. De quelle maison, on ne sait pas. Et Moncho, un jour, il siffle, comme il savait le faire dans le village, et hop, le bois est venu tout seul à la maison. Lui, il a mis le bois dans la cheminée, et il s'en est sorti une fumée épouvantable. Épouvantable. Alors, il s'est mis à jurer, à injurier le bois. Et c'est des mots que je ne peux pas répéter ici. Et le bois, vexé, il est parti tout seul à Armataré dans la forêt. Et depuis ce jour-là, à Biscar Choro, Urdousset, les gens sont obligés, eux aussi, d'aller faire le bois dans la forêt et de l'apporter eux-mêmes à la maison. Mais ce Moncho, quelques jours plus tard, c'était l'hiver, la neige était tombée, il faisait froid, il est allé chercher son bois dans la forêt avec sa mule. Et vous savez, en hiver, chez nous, on allait chercher ce que vous appelez les bûches de Noël. Les bûches de Noël, c'est des grosses bûches qu'on met au fond de la cheminée pour que la braise traverse toute la nuit. Qu'on trouve la braise le matin, il suffit de souffler dessus. Et comme les nuits sont longues, il nous faut des gros billots. Alors lui, il a préparé ses deux gros billots avec sa mule. Et puis, avant de les charger sur sa mule, il fait un petit peu un feu pour se chauffer, pour manger un peu. Et puis, une fois mangé, avec ses piles, il écarte les braises pour les éteindre, tout ça. Et puis, dans le sol, il voit quelque chose qui brille. C'est du fer. Avec le fer de sa hache, il éteint la chose. C'est un coffre, un magnifique coffre. Il le tourne dans tous les sens. Et puis, pas de clé. Mais s'il y a un coffre, il y a une clé quelque part. Alors, il se met à chercher. Et puis, il ouvre la clé. Et la clé, il a mis du temps là, à la rentrée. Parce que, bon, c'était rouillé, c'était sale. Mais il a réussi. Et l'histoire dit qu'il a ouvert la boîte. Et puis, il l'a regardé. Et l'histoire dit qu'il l'a vu. Et ça s'arrête là. Dans beaucoup d'histoires chez nous, l'histoire fait la moitié du chemin, c'est à nous à faire la suite. Bon, la suite arrivera après. Mais cette histoire, les conteurs l'utilisent aussi, parce que ce n'est pas une histoire de chez nous seulement. Les frères Grimm en Allemagne ont la même histoire. Mais les conteurs, on utilise cette histoire-là parce que les histoires, c'est comme un coffre. Il faut la bonne clé pour l'ouvrir. Des fois, il faut plusieurs clés. Alors, dans les histoires que je vais raconter tout à l'heure, il y a des clés. Je vais vous demander, vous allez travailler, où est la clé? Il faut la clé. Et puis, quand on ouvre la boîte, quand on ouvre l'histoire, quand on rentre dans l'histoire, des fois, on n'aime pas l'histoire. Ça ne nous dit rien. Et puis, des fois, on n'écoute pas et le vent emporte l'histoire. Et puis, des fois, l'histoire est belle et elle vous caresse le cœur. Voilà. Alors, en suivant ces mots, je vais vous raconter la première histoire. Elle est très simple. Vous êtes des parents, des grands-parents. C'est une histoire que vous pouvez raconter aux enfants. Parce que les histoires, c'est fait pour endormir les enfants, mais pour réveiller les adultes. Alors voilà, imaginez. Vous êtes là, devant vous, il y a un chemin. Un chemin qui va dans la forêt. Vous voyez la forêt? Chacun a sa forêt. Et puis à gauche, là, il y a un arbre. Vous voyez, chacun a son arbre. C'est peut-être un chêne. Et vous vous mettez sous le chêne et vous entendez là-haut un oiseau dans son nid. Et moi, conteur, je vais dans le nid. Et dans le nid, il y a la maman oiseau. Et puis, sous le duvet, il y a une petite tête qui sort. Le petit oiseau. Et le petit oiseau, piou, 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 commence à parler. Et, Ama, Ama, Maïté Lanceau, maman, tu m'aimes? Et la mère aux hommes, mais bien sûr que je t'aime. Ama, maintenant, sous arbola, cachouartelaino, tu m'aimes jusqu'au sommet de l'arbre. Mais bien sûr, ma petite, je t'aime jusqu'au sommet de l'arbre et du sommet de l'arbre jusqu'au lit. Ama, quoi encore? Est-ce que tu m'aimes jusqu'au ruisseau en bas? Mais bien sûr que je t'aime au ruisseau en bas. Et du ruisseau jusqu'à notre nid aussi, je t'aime. Au bout d'un moment, la petite dit, maman, est-ce que tu m'aimes jusqu'au sommet de la montagne là-bas? Mais oui, ma petite, jusqu'au sommet de la montagne et de la montagne jusqu'à notre nid aussi. Et puis tu vois la lune qui se lève là-bas? Eh bien, je t'aime jusqu'à la lune. Et de la lune jusqu'ici aussi. Et puis regarde bien de l'autre côté là-bas. La petite étoile qui vient de naître là-bas, au fond du ciel. Eh bien, je t'aime jusque là-bas. Et de là-bas jusqu'ici. Alors, l'oiseau a regardé l'étoile, a regardé les yeux de sa mère. Et dans les yeux de sa mère, il a vu briller l'étoile. Lui, il a capté l'étoile dans ses yeux. Il a fermé ses paupières. Et puis, il s'est endormi. En tout cas, on n'a plus rien entendu. Et vous qui étiez sous l'arbre, eh bien, vous êtes revenu, vous avez repris le chemin, et vous êtes là. Et moi, ma question est, comment faut-il comprendre cette histoire? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Moi, il me semble que la clé de cette histoire, c'est la question du petit oiseau. Maman, est-ce que tu m'aimes jusqu'au sommet de l'arbre? Qu'est-ce qu'il y a dans cette question? Eh bien, moi, je vous dirais qu'on est au sein de ce qu'on appelle aujourd'hui, ce soir, l'espérance. C'est un petit oiseau. Et dans son ADN, il sait qu'il doit voler. Il sait qu'il va voler. Mais il a peur. Alors, il demande à sa mère si elle va l'accompagner. Pourquoi l'oiseau demande, m'aimes-tu jusqu'à la rivière? Parce qu'il risque de tomber. La vie, c'est une aventure. Vous l'avez entendu tout à l'heure. C'est une aventure. Donc, l'oiseau a tout ce qu'il faut pour tenter cette aventure. Mais c'est pas fait encore. C'est déjà gagné, parce que l'oiseau sait qu'il a des ailes, mais c'est pas réalisé encore. Et là, on est au cœur de l'espérance. C'est ça l'espérance. Malgré tout, en dépit de tout, eh bien, l'espoir. Et il n'y a rien à faire. Et j'allais dire, en basque, on a, quand une mère attend son enfant, on dit « esperanza tanda ». Il est dans l'espérance. Et l'espérance, c'est ça aussi. Une mère qui attend son enfant. Et il y a de la joie dedans. Il y a de l'angoisse dedans. Il y a l'aventure. L'aventure humaine qui va commencer. C'est un moment extraordinaire. Il est là, mais on ne l'a pas encore réalisé. Et ça, c'est l'espérance. Et quand vous mettez un grain de blé en terre, il pourrit. Le froid, le noir, la dureté du sol... Mais c'est irrémédiable. Le grain de blé va germer. C'est ça l'espérance. Et l'espérance chrétienne, c'est ça aussi. Voilà. Alors, je vais sauter dans ma deuxième histoire. On est dans la mythologie grecque. Et là, Héphaïstos, il a fabriqué les hommes. Héphaïstos, un dieu, il a fabriqué les hommes. Mais il n'a pas assez de matière pour finir l'homme. Ah. L'homme, il est tout nu. Voilà, il lui manque des poils, il lui manque des écailles, sa carapace. Et à l'hiver, il se gèle. Et alors, il y en a un qui s'est aperçu. Et Prométhée s'est aperçu. Les pauvres hommes, ils sont tenus, ils ont froid. Alors, il va incognito, il prend un brandon, il fauche le feu de Dieu, et... Il le porte. Tenez les hommes, tenez, prenez ça. Et attention, ça brûle, hein, ça brûle. Ça mord comme des serpents, attention. Et les hommes ont pris le feu. Et Prométhée les a regardés. Ils se sont amusés, ils se sont chopés. Des fois, ils se sont assis comme nous, là, autour du feu. Très bien. Mais c'est que les dieux l'ont su. Et qui, Zeus, qui c'est qui a volé le feu? C'est Prométhée. Prométhée, pourquoi t'as volé le feu?
Ils avaient froid, les hommes, ils se cueillaient. Et puis, ben, j'ai eu pitié d'eux.
Il n'y a pas de pitié qui tienne. Viens ici, tu as volé, donc tu mérites châtiment. Et vous connaissez le châtiment de Prométhée? attaché à un roc. Imaginez, au sommet de la rune, le gars, ventre en l'air, attaché sur un rocher. Et tous les matins, un aigle vient lui manger le foie. Et la nuit, le foie se régénère. Ah. Et puis, pendant ce temps, les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'amusent avec le feu. Des fois, ils brûlent la forêt du voisin. Voilà, ils chauffent la viande. Ah, c'est bon. Et puis, ils font la guerre aussi, tout ça. Mais les dieux qui regardent ça, bon, les hommes, c'est pas terrible, c'est pas... Yeah. Il faut qu'on mette une vie dedans. Alors, il y en a un qui a une idée. Il s'est dit, moi, j'ai une idée. Et puis, ils se sont mis tous au travail. Et tout le monde était d'accord avec cette idée-là. Et vous savez ce que c'était, cette idée? Créer une femme. Une femme belle. Pandore. Pandore. La plus belle, la perfection. La perfection. Et alors, la perfection. Ha. Mais la perfection, c'est, je sais pas moi, c'est un don, enfin, un attribut des dieux. C'est pas possible. On peut pas envoyer une femme parfaite chez les hommes. Alors il y en a un qui a une idée. Attends, et on va lui donner une boîte. Une boîte. En fait, c'est une amphore, mais on dit une boîte. Et dans la boîte, on va mettre un tas de saloperies. Et puis, on va lui interdire d'ouvrir la boîte. Tu vas voir, ça va marcher. Et puis, vous voyez, les femmes seront jalouses de Pandore et les hommes, ils vont se battre pour l'avoir. Tu vas voir, on va rigoler. Et puis, Pandore, on lui a donné la boîte. Attention, Pandore, n'ouvre pas la boîte. Si tu ouvres la boîte, tu auras des catastrophes. Pas ouvrir la boîte, je m'en vais. Elle est descendue les escaliers, elle est venue parmi les hommes. Et puis, elle est tombée sur qui vous faites? Épiméthée. Épiméthée et Prométhée, son frère. Prométhée, lui, il pense avant d'agir. Épiméthée, il agit, puis il pense. Et alors, il tombe sur cette bombe, parce que c'est une bombe. Pourquoi on dit une bombe? Parce que quand on la voit, poum, poum, poum. Et lui, Épiméthée, il tombe amoureux. Ils se marient. Ils ont des enfants. Ils achètent un monospace. Une maison secondaire à Biarritz. Avec piscine, golf. Voilà, la vie est belle. Et puis, quand ils reviennent à la maison, comme toutes les femmes, il faut mettre un peu d'ordre, il faut la poussière, on ouvre l'armoire. Tiens, la boîte. J'avais oublié la boîte. Et puis, elle prend la boîte. Et complètement oublié la consigne. Alors, elle ouvre la boîte. Et oh, qu'est-ce qui sort? Toutes les saloperies, les guerres, les homicides, les génocides. Et dis-moi, qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui sort? Les mensonges, les trahisons, qu'est-ce qui sort? La violence. Dis-moi, mais la paix, la paix. Les mensonges, quoi encore? Les trahisons, dis-moi. La maladie, le cancer. Qu'est-ce qui sort encore? Ça sort. La jalousie, la haine, et tout ça, ça sort. Mais comme un virus, ça s'incruste dans les gens. Et puis, Mété qui pense toujours après, ferme cette boîte. Et elle ferme. Il y a quelque chose dedans. Regarde, qu'est-ce que c'est? Regarde. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est l'amour? Non, c'est plus que l'amour. C'est l'amour vécu, plus l'amour espéré, plus l'autre amour vécu, plus espéré, etc., etc. L'espérance, c'est l'espérance qui est au fond. Et l'espérance, comme un virus, s'est incrusté en nous aussi. Et on vit ce paradoxe. On est... Être humain, c'est avoir tous ses défauts. Tous ces défauts, ces guerres, c'est... Et nous, on est complices. Mais, le matin, quand on se lève, on a toujours cet espoir. L'espoir d'un monde meilleur. Oui, demain, ça sera meilleur. Et on a cette aspiration. C'est ça, l'espérance. Voilà. Thank you.
l'espérance, faire communauté, être ensemble. L'espérance, la paix sur la terre, la vie après la mort, une famille unie. Espoir, espérance dans la joie.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé.
Ce texte-là. Imaginez les bergers partis, Marie allait le petit assise sur la mangeoire, et puis Joseph, lui, il range les fromages, le miel, les couvertures, un peu de bois. Et puis, il lève la tête et au fond, là-bas, à l'entrée, comme une crèche, là, c'est largement ouvert, il voit un gamin. Hé, hey, rentre ! Et le gamin, d'une forte voix, dit « Non, je ne vais pas rentrer, j'ai rien à donner !»« Ah, je suis sûr, dit Joseph, tu as quelque chose à donner. Je ne sais pas, moi, une bille, ou une flèche, ou un sifflet, quelque chose qui t'appartient, ton bâton de berger. Non, j'ai rien, rien. Tout ce que j'ai, je l'ai sur moi, j'ai rien du tout. » Et puis, le gamin, il met sa main dans sa poche de son pantalon rapiécé, et il sort un vieux couteau rouillé. « J'ai que ça ! Et encore, je l'ai trouvé en chemin, il est tout rouillé !» Et Marie, du fond de la crèche, dit « Non, 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 c'est pas ça qu'on veut. » Et Joseph ajoute « Oui, mais voilà, je suis sûr que mon petit doigt me dit que tu as trois petites choses à me donner, je suis sûr. » Je sais pas, moi, une chanson, une comptine, quelque chose, une blague, non ? Tu sais siffler, peut-être ? Non, je sais pas. Et le gamin s'énerve, il fait mine de partir. Attends, attends, comment tu t'appelles ? Younes. Younes, viens, entre. Le garçon fait un pas. Et puis, je suis sûr que... Tiens, tu vois la poussière par terre là ? Je suis sûr que tu peux faire un dessin. Tu vois, une brebis, voilà, quelque chose comme ça. Non, je ne sais pas dessiner. On dit que mes dessins sont moches. Puis je ne sais pas chanter non plus. Et puis, on dit que j'ai une grande gueule, que j'ai une grande voix. Et on me met de la laine dans la bouche pour que je me taise. Ils se fichent de moi. Eh bien, voilà ! Voilà un premier cadeau ! Quand t'as souffert, quand t'as été blessé, voilà, tu nous laisses ça, et ça fait un cadeau. Et puis, c'est parfait. Et puis Marie qui dit, mais tu vois, on aurait besoin d'un bol, peut-être que t'as un bol chez toi que tu pourrais apporter. Un bol ? Mais il est cassé, je peux pas l'amener. Et bien voilà le deuxième cadeau. Et tu nous amènes ce que tu as cassé, ce que tu as usé, ce que tu as jeté, ce que tu as méprisé, tu nous le donnes, et ça fait un deuxième cadeau. Et Marie lui demande, et comment ça s'est passé, ça, il est cassé. Le gamin, il réfléchit un peu, et il faut que je vous dise, à ma mère, j'ai dit que j'étais en train de l'essuyer, après l'avoir lavé, et puis qu'il m'a glissé les doigts, qu'il est tombé par terre. Mais c'est pas vrai. J'ai menti. J'étais en colère contre elle. J'ai jeté le bol et il s'est cassé en 1000 morceaux. Eh bien voilà, voilà, le troisième cadeau, il est là. Et les mots grossiers que tu as dit, c'est le mal que tu as fait aux autres, la terre que tu as jetée aux autres, les insultes, tu nous les donnes et ça fait un troisième cadeau. C'est parfait. Allez, Younes, approche, approche. Et le gamin a fait quelques pas. Viens, approche, tu vas donner un bisou au bébé. Et Younes, il s'est approché, il a souri, il a mis un genou par terre, et avec ses grosses lèvres, il a mis un bisou au bébé. Et puis Marie lui a caressé le front, lui a dit, Younes, tu sais, t'as un très beau sourire. Et puis maintenant, tu vas aller voir tes compagnons. Et puis, quand tu passes par là avec tes chèvres, tes brebis, là, viens nous voir. On sera très heureux de t'accueillir. Ce sera un cadeau aussi. Et le gamin, n'a pas su quoi dire. Il s'est levé, clopin, clopin, en chantant. Il est parti, il s'est perdu dans la nuit. Et puis, il faisait noir pour nous, mais pour lui, on aurait dit que toutes les étoiles du ciel s'étaient allumées. Il était content. Il est parti enthousiasmé. Vous savez ce que ça veut dire, enthousiasmé ? En, dedans, tout, Théo, Dieu, avec Dieu dans l'âme, enthousiasmé. C'est pas fort, ça. Et il est parti, témoin de ce qu'il a vu, ce qu'on a lu tout à l'heure. C'était ça. Voilà. C'était l'histoire finie là. Je vous la laisse. Voilà. Mais s'il faut réfléchir, on voit que ce gamin-là, il a été restauré, c'est-à-dire il a été considéré. Il a été relevé, établi, mis debout par quelques petites choses, des mots simples, par la douceur, la gentillesse. Voilà. C'est comme ça qu'on restaure. Pour, comment dire, refaire naître une espérance, souvent un petit sourire, un geste, il ne faut pas grand-chose.
Alors, cette belle histoire qui nous met en route, elle commence peut-être par un conteur, quelqu'un qui vient réveiller, qui vient montrer, qui vient ouvrir quelque chose. Et on va accueillir dans cette crèche celui qui a été le premier messager, cet ange. Alors, il a su trouver les mots, cet ange. Il a su choisir, ou du moins reconnaître, repérer celle qui allait l'entendre. Alors, puissions-nous entendre ces messagers qui nous sont envoyés, qui frappent à notre porte. Je pense qu'il y en a un dans la vie de chacun, et peut-être plusieurs. Alors, sa première interlocutrice à cet ange, ça a été Marie. Marie, comme ce petit Younes, elle a peut-être dit, elle aussi, « Mais moi, je n'en suis pas capable. » Je suis qu'une brave petite jeune fille. Je ne sais pas si je suis capable. Et pourtant, elle s'est laissée faire par cette parole, hein, « Ne crains pas, ne crains pas. L'Esprit viendra sur toi. » Donc, ce soir, devant cette crèche, peut-être qu'il nous faut aussi nous accepter, dire des oui, se laisser convaincre par la force de l'esprit. Et voilà Joseph. Alors pour lui aussi, quel inattendu, quelle aventure. Il l'a pensé beaucoup plus simple avec Marie, un mariage classique certainement. Hein. Et puis voilà que cette grande nouvelle vient bouleverser sa vie. Et bien lui aussi, il accepte de partir dans cette aventure dont il ne sait pas grand-chose. Donc si ça, c'est pas de l'espérance. Et nos braves bergers, qui ne demandaient rien à personne et surtout à qui on ne demandait rien, qui étaient là tout près de cet événement. Eh bien, voilà que c'est à eux que cette troupe d'anges vient rendre visite. Leur amène de la lumière et leur dit « C'est pour vous, venez, venez !» Là aussi, quelle aventure. Alors voyez, si petit qu'on soit, on peut avoir une grande place. Une grande place, c'est peut-être la première place, puisque dans cette crèche, c'est eux les premiers adorateurs, c'est eux les premiers visiteurs. Donc, eh bien, voilà, peut-être qu'on peut être un peu de chacun. Un tout petit peu de chacun, il n'en faut pas beaucoup. Vous savez que la crèche est le résultat du peu, du tout petit peu, du tout petit rien. Donc laissons l'esprit, laissons cette crèche nous travailler. Sans les juger, qu'il y ait entre nous plus de solidarité, moins de pauvreté et de solitude. Autour de cette crèche, s'entendre avec tout le monde, vivre longtemps et bien avec les siens. Espérer être proche des miens, donner et recevoir, avoir la foi en l'autre, qui m'aide dans les épreuves, la foi en Dieu. en plus de solidarité dans le monde du travail. Espérance d'une guérison, espérance de société de partage, amour et partage. Espérer un monde toujours meilleur. Espérer la paix, la joie de tous. Savoir écouter l'autre pour mieux le découvrir. Et on découvre alors ses qualités.
Cette histoire nous amène à Baïgorry, désolé. Hein, c'est... Et à Baïgorry, il y a la montagne d'Oilandoy, et Oilandoy, il y a une chapelle au-dessus. Cette chapelle a été bâtie en 1706. Les deux années qui ont précédé, il y a eu des orages qui ont anéanti les récoltes de maïs, de blé et les vignes. Voilà. Alors ils ont décidé de bâtir cette chapelle et d'y installer un ermite, un priant. De la Sainte-Croix, je crois que c'est début mai, jusqu'à la Saint-Michel, le 29 septembre. Voilà. Et puis, les gens des alentours, des villages alentours, étaient donc, devaient porter chacun à son tour de quoi nourrir l'ermite. Et donc, tout ça s'est arrêté au lendemain de la Révolution, en 1792. Et pendant 84 ans, tous les ans, il y a eu donc un ermite. Et donc, on le connaît très bien parce qu'il y a les documents. Et donc, c'était un règlement très, très strict. Il ne pouvait pas descendre, etc. Mais des fois, il descendait en cachette, et puis, parce que c'est long. Hein. Et donc, voilà, un paysan qui, c'est son tour. Alors, il vient avec de quoi manger. Et puis, il a une cage. Et dans cette cage, il a un merle. Et le paysan, il est très content. Et voilà, je vous apporte ce petit oiseau. Je l'ai apprivoisé. Si vous lui sifflez, il va chanter. Il va vous tenir compagnie. Il est très agréable. L'ermite prend la cage. Il ouvre la cage. Il prend l'oiseau entre ses mains. Il lui donne un bisou. Et puis, il approche à l'oreille. Et le merle semble chantonner quelque chose. Et puis, l'ermite, il lève les bras, ses deux bras, il lève les bras, et hop, il lâche le merle. Le merle qui, en s'envolant, pousse un cri. Et un cri incroyable, un cri de libération. Et le paysan, mais c'était un cadeau, je l'avais apprivoisé, et tout ce travail pour rien, il t'aurait... Voilà, mais c'est un désastre, mais pourquoi ça? Et l'ermite lui a expliqué, tu sais, quand il s'est approché de mon oreille, et l'oiseau avec son chant, il m'a dit, tu sais, si tu veux qu'on soit amis, je veux pas de cage entre toi et moi. Et alors ils ont discuté, mais le paysan n'est pas parti fâché. Et les bergers, Urdancia, il y a des bergers autour pendant l'été, qui le connaissaient bien puisqu'ils étaient familiers, les bergers ont dit que cet oiseau-là, il venait très fréquemment dans la chapelle chez l'ermite. Et l'ermite mettait du pain, du fromage sur le toit, et l'oiseau venait et il discutait. Et même on dit que pendant qu'il dormait, quand il y avait un orage qui s'annonçait, c'est le merle qui venait avertir l'ermite. Et puis l'ermite est mort. Il a été enterré dans le cimetière qui était autour de l'église avant. Et les gens disent que un jour, ils ont trouvé un merle mort sur son tombeau. Et on pense que c'est le fameux merle. Et les paysans, les bergers, disaient, ouais, ils discutaient tout le temps, mais ils n'étaient pas toujours d'accord. Hein. Ils avaient en particulier un problème. Et c'était de savoir qui, de l'oiseau ou de l'ermite, quand l'oiseau a pris sa liberté et quand il a chanté, qui, de l'oiseau ou de l'ermite, a eu la plus grande joie ? Qui, de l'oiseau ou de l'ermite, a été libéré ? Le plus libéré. La question reste posée. Mais le cri est parti. Et puisqu'on arrive vers la fin, moi je vais m'arrêter à ce cri-là, parce que dans ce cri, il y a tout ce qu'on a dit ce soir. Dans ce cri-là, il y a la souffrance. La souffrance sont des gens qui sont enchaînés en prison, la prison de la maladie, de toutes sortes de prisons, toutes sortes de souffrances. Dans ce cri-là, il y a aussi comme une action de grâce, comme un remerciement, une reconnaissance envers le libérateur. Et puis, peut-être à la vie aussi. La vie qui a donné des ailes à l'oiseau. Et puis, il y a aussi un appel à la liberté. Dans ce cri-là, il y a un appel à la liberté. Et tous ces cris-là, pour moi, ce sont des prières. Et dans notre prière, tout à l'heure, il y aura tout ça. Les souffrances, la reconnaissance, et puis l'appel à aller plus loin, l'appel à aller l'aventure. Et moi, je vais ajouter quelque chose. Dans ce cri-là, ce cri, il est le vôtre aussi. Il est le nôtre, il est à moi, il est à nous. Quand nous sommes nés, c'est la première chose qu'on a fait. Crier, hurler pour s'ouvrir les poumons, pour prendre l'aventure de la vie. C'est la naissance de l'espérance, c'est l'espérance même. C'est pour ça qu'on est là. Alors la prière qui va suivre va rassembler tout ça.
Dieu notre Père, malgré l'obscurité de notre monde, tu viens allumer des étoiles dans nos vies. Donne-nous ta parole de lumière pour qu'elle transforme notre regard afin de voir ce qui se fait déjà de beau autour de nous. Qu'elle nous aide à préparer la venue de ton Fils en nous faisant poser des gestes qui sont porteurs d'espérance. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen.
Oh.
Noël d'espérance, vous venez de suivre cette veillée enregistrée le 11 décembre 2024 en la chapelle Sainte-Catherine d'Héroritz, veillée organisée et animée par un groupe de chrétiens de la paroisse Saint-Sauveur d'Hérobie avec la participation du conteur Sean Hérotaber.